Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Encore raté, les représentants des 28 États membres de l'Union européenne n'ont pas réussi à s'entendre ce jeudi sur l'avenir du glyphosate. La Commission européenne propose de renouveler l'autorisation de ce pesticide pour une durée de 5 ans, mais la majorité requise n'a pas été atteinte. La France notamment est contre, elle défend un renouvellement pour 3 ans. L'attitude du gouvernement français en la matière paraît plutôt cohérente. Elle s'inscrit dans la logique du plan Ecophyto, lancé en 2008 dans la foulée du Grenelle de l'environnement. L'objectif était de réduire de moitié le recours aux pesticides d'ici 2018. On en est loin aujourd'hui, mais le plan a été revu à la baisse. Moins ambitieux, certes, mais sans doute plus réaliste. Car on ne sort pas d'un claquement de doigts d'une telle dépendance aux produits phytosanitaires. L'agriculture française s'est développée après-guerre grâce à l'usage massif de la chimie. En sortir aujourd'hui suppose de changer de technique, mais aussi peut-être surtout de faire évoluer les mentalités, celles des agriculteurs bien sûr, mais aussi celles des consommateurs. Alors l'agriculture peut-elle se passer de pesticides ? Eh bien, c'est notre sujet du jour en compagnie de trois invités. Christiane Lambert, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes agricultrice, éleveuse de porc dans le département du Maine-et-Loire, présidente de la FNSEA, Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, le principal syndicat d'agriculteurs. Pour discuter avec vous, un autre agriculteur, Paul François, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes vous céréalier en Charente, vous présidez l'association Phyto-Victimes qui a été créée en 2011. Vous êtes engagé depuis plusieurs années dans une bataille judiciaire contre Monsanto après avoir été intoxiqué par un des herbicides de cette firme. C'est un combat que vous racontez dans un ouvrage qui vient d'être publié, Un paysan contre Monsanto, publié aux éditions Fayard. Et puis notre troisième invité, Lauriane Mouisset, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheuse au CNRS, spécialisée en économie écologique, juste d'un mot. Qu'est-ce que c'est que l'économie écologique ?
Alors c'est une discipline entre l'économie et l'écologie, et en fait l'idée c'est d'intégrer des modèles écologiques, donc les dynamiques des écosystèmes, de la biodiversité, dans l'économie pour concevoir un développement durable.
Voilà, je précise que vous avez publié aux éditions de la Rue d'Ulm en 2015 « Repenser le défi de la biodiversité ». Alors je voudrais qu'on commence évidemment cette émission avec cette non-décision, une fois de plus, des Européens sur l'avenir du glyphosate, je le disais, faute de majorité suffisante. Votre premier commentaire, Christiane Lambert et Paul François. Christiane Lambert, est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Est-ce que c'est encore un atermoiement qui vous, comment dire, qui vous pose problème ?
Bon, c'est un atermoiement qui tourne au carnaval. C'est un vrai capharnaüm aujourd'hui. Les pays tardent à prendre une décision. Il y a des postures très politiques. Le plus gros défaut des politiques, c'est qu'ils ne regardent pas suffisamment d'approches scientifiques. Et c'est aussi qu'un certain nombre de pays n'osent pas prendre la décision et attendent que Bruxelles prenne les décisions à leur place.
Ce qui risque de se passer, hein, c'est ça, c'est renvoyé à la Commission européenne.
Puis le débat a été complètement polémisé, caricaturé. Aujourd'hui, plus personne ne s'y retrouve. Interroger un Français moyen, il se demande bien ce qui se passe, sauf à dire faut arrêter tout ça, ce qui est pas, à mon avis, est trop simple comme formule. Et j'aime bien le titre de votre émission. Peut-on s'en passer ou pas ? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en passer ? Nous sommes dans la recherche de solutions. Ce produit-là ou d'autres doivent évoluer. Il y a des produits qui existent aujourd'hui qui ont reçu des homologations. C'est pas normal que les politiques remettent aujourd'hui en question la fiabilité de l'agence française, l'ANSES. Je rappelle qu'il y a 2 ans, M. Le Foll a confié à l'agence française le soin d'homologuer les produits, de donner les autorisations de mise en marché et les autorisations de réhomologation, c'est-à-dire qu'on leur fait confiance. Et puis là, l'ANSES a donné un avis. Et l'État français fait fi de cet avis et remet en question la fiabilité des agences. Le politique se brûle les ailes de cette façon-là, parce que les scientifiques se sentent désavoués. Ça fait pas très sérieux.
Donc quand vous parlez de posture politique de certains États, vous mettez notamment la France dans ce panier-là.
Oui, la France aussi, parce qu'on a eu 2 ans, 3 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans. C'est invraisemblable, c'est ubuesque.
Est-ce que vous déplorez, vous aussi, Paul François, ces atermoiements et ce report, une fois de plus, de la décision autour du glyphosate ? Peut-être pas pour les mêmes raisons, d'ailleurs, que Christiane Lambert.
Oui, je le regrette, mais je ne suis pas surpris. Donc, c'est évident. Mais pas pour les mêmes raisons, parce que moi, je suis, de toute façon, pour un retrait du glyphosate. Hein, alors, après 3 ans, 5 ans, je ne sais pas. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord sur l'approche scientifique. Et je rejoins Christiane Lambert en disant c'est devenu idéologique pour certains, ça c'est vrai, mais c'est venu aussi idéologique pour certains agriculteurs. Donc il faut prendre du recul, on est tout à fait d'accord, mais dire que l'ANSES a donné un avis, c'est quand même oublier que Roger Genet, qui est le directeur de l'ANSES, a expliqué aux États généraux il y a quelques semaines que de toute manière, il n'avait pas la composition réelle aujourd'hui du Roundup avec le glyphosate, c'est-à-dire il y a le glyphosate.
Voilà, faut rappeler que la principale marque commerciale du glyphosate, c'est le Roundup.
Hein. C'est le Roundup. Et il disait, mais la vraie formulation, nous ne l'avons toujours pas. Et il y a quand même suffisamment de scientifiques, et je ne remets surtout pas en cause l'ANSES, parce que j'ai fait partie de ceux à travers l'association qui ont soutenu l'idée qu'il y ait une agence, parce qu'avant, il ne faut pas oublier que c'était uniquement le ministère de l'Agriculture qui homologuait les produits. Donc nous avions besoin de cette agence qui est sous la tutelle du ministère de l'Environnement, de la Santé, de l'Agriculture et de Bercy. Simplement, il y a suffisamment d'éléments aujourd'hui pour dire le glyphosate, et surtout dans sa formulation à travers le Roundup ou autre, est dangereux, et donc faut prendre des décisions pour le sortir de notre système agricole.
Voilà, je l'ai pas rappelé, mais il a été classé cancérogène probable par le Centre international de recherche sur le cancer, qui dépend de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. On parlait de posture idéologique, Lauriane Mouissé. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est aussi des oppositions peut-être entre différents modèles agricoles qui se jouent aujourd'hui à travers cette bagarre autour du renouvellement ou non, et pour combien d'années du glyphosate?
Oui, en fait, donc l'agriculture a évolué largement depuis la Seconde Guerre mondiale. En fait, la politique agricole commune a été mise en place à ce moment-là pour dans une perspective précise qui était l'intensification et la modernisation de l'agriculture, principalement pour rendre la France autosuffisante et pour assurer un revenu décent aux agriculteurs. Et puis ça a fonctionné en fait. Il y a effectivement cette modernisation, mais après on s'est rendu compte des conséquences négatives sur notamment l'environnement, etc. Et donc il y a des nouvelles questions qui apparaissent
et qui n'apparaissent pas de la même manière selon les pays européens.
Ah oui, alors selon les pays européens et puis même au niveau international en fait, c'est une question qui se pose de manière générale. Et donc ça ouvre en fait des débats sur comment intégrer, comment gérer l'environnement, les écosystèmes dans cette politique qui a un passif historique en fait. Et concernant plus spécifiquement la question de la polarisation du débat au niveau du glyphosate, moi je me demande si en fait c'est pas caractéristique du fait que le débat est beaucoup plus complexe que juste l'utilisation de cette seule molécule, et qu'en fait, parfois on a un petit peu tendance à vouloir cristalliser un débat qui est complexe avec beaucoup de facteurs et beaucoup de critères, avec une seule molécule. Et donc,
c'est justement dans la complexité qu'on va essayer d'aller ce soir, hein. C'est pour ça aussi qu'on a posé la question des pesticides en général, de la capacité de l'agriculture à s'en défaire ou pas, et avec quel accompagnement. Mais pour rester encore peut-être un instant sur le glyphosate, Christiane Lambert, j'ai vu dans une interview que vous défendiez à la FNSEA une utilisation raisonnée de cette molécule. Qu'est-ce que ça veut dire, une utilisation raisonnée, par rapport à l'utilisation actuelle, disons?
En France, il y a quelques années, il y a 15 ans, c'était une utilisation à raison de 10 litres hectares, comme aux États-Unis encore aujourd'hui. Aujourd'hui, les agriculteurs qui utilisent ce produit l'utilisent à des doses beaucoup moindres, c'est 1 litre et demi par hectare. Et pour les agriculteurs qui sont notamment en technique sans labour, c'est-à-dire qui ne veulent pas labourer pour pas larguer le carbone, s'il faut remplacer le glyphosate, c'est 3,5 litres d'antigraminés et 3,5 litres grosso modo d'antidicotylédone pour le remplacer.
Donc, il y a des désherbants qui sont peut-être moins nocifs à même dose, mais qu'il faut utiliser davantage, c'est ça?
En quantité plus importante et qui ne sont pas moins nocifs, personne ne l'a prouvé. J'ajoute par rapport à l'agence Le Cirque qu'aujourd'hui le Congrès américain convoque les responsables du Cirque, c'est-à-dire du Centre international de recherche contre le cancer, parce qu'il y a beaucoup de débats autour de la fiabilité des études qui ont été faites. Vous l'avez certainement lu, il y a un Portier Papers, puisqu'il y a aujourd'hui un Christopher Papers qui aurait révélé que certaines données n'auraient pas été remises dans l'étude à la fin, des données qui justement montraient qu'il n'était pas cancérogène. Donc il y a polémique aujourd'hui aux États-Unis, le Congrès va entendre l'agence. ça va éclaircir les débats aussi. Mais plus fondamentalement, moi j'apprécie ce qui a été dit par Madame à l'instant, c'est que l'agriculture française s'est développée pour produire plus, parce qu'il fallait produire pour nourrir beaucoup. Aujourd'hui, la question environnementale se pose comme elle se pose pour les ordures ménagères, les déchets, pour les problématiques de sururbanisation, et il faut trouver des correctifs. En France, plus de 70 molécules ont été retirées depuis une quinzaine d'années, parce qu'on connaît mieux, donc on est plus à même d'apprécier lesquelles sont problématiques et lesquelles ne le sont pas.
Et de nouvelles ont été mises sur le marché.
Et de nouvelles sont mises sur le marché, qui présentent moins de difficultés. Par contre, les agriculteurs sont un peu pris entre deux feux. Entre des distributeurs qui veulent des produits très peu chers et une alimentation pas chère à la française, donc il faut produire beaucoup et pas cher, et un amont agricole, c'est-à-dire des fabricants de produits phyto qui ne cherchent pas assez vite. L'INRA qui dit aujourd'hui, j'ai pas de solution. J'ai interrogé le président de l'INRA, M. Mauguin. Ça serait intéressant que vous l'invitiez de temps en temps. Qu'est-ce qu'il m'a dit ? Il m'a dit tout de suite, j'ai pas de solution. Ou alors beaucoup plus complexe et beaucoup plus cher. Et quand je lui dis combien de temps vous faut-il ? Il me dit à moins de 5-7 ans, on peut rien trouver. Il faut interroger l'INRA. Pourquoi n'ont-ils pas cherché plus tôt ?
Eh bien, Paul-François, peut-être que vous... Alors, je ne sais pas si la solution que vous avez pu trouver sur votre exploitation, je rappelle, vous êtes céréalier, si cette solution peut être étendue à l'ensemble du monde agricole, c'est évidemment beaucoup plus compliqué à imaginer d'un point de vue systémique. Mais d'abord, est-ce que le glyphosate, je reste encore un instant sur ce produit, vous l'avez beaucoup utilisé ? Et ensuite, comment est-ce que vous avez fait, peut-être, pour vous en affranchir ?
Oui, j'en ai beaucoup utilisé. Jamais à 10 litres hectare, je ne sais pas, vous avez pris ces chiffres, Madame Lambert, parce que dans l'agriculture que j'ai pratiquée très intensive dans les années 90, où le glyphosate rentrait dans notre système de production, on n'a jamais épandu 10 litres à l'hectare, bien au contraire. Par contre, dans la durée, parce que quand vous commencez à 1 litre, il y a des problèmes de résistance et on arrive à 10 litres. Et je connais malheureusement aujourd'hui un grand nombre d'agriculteurs qui en sont rendus à des 10 litres.
Problème de résistance des plantes, c'est-à-dire d'accoutumance, disons, à ces pesticides.
D'accoutumance. Donc, voilà. Alors, comment j'ai fait pour m'en passer ? Parce que, effectivement, j'ai une ferme en bio. L'objectif est de passer la deuxième en agriculture biologique, mais en attendant, j'utilisais encore de la chimie. Et le glyphosate, on l'a rayé. On l'a rayé parce que, d'abord parce que la société que j'ai attaquée, j'avais pas du tout envie non plus de racheter des produits, à savoir Monsanto. Et effectivement, pour s'en passer, qu'est-ce qu'on a fait ? On a repensé notre modèle, on a repensé nos rotations et on a allongé nos systèmes de rotation, et nous avons incorporé des couverts végétaux et ça a été une mise en œuvre d'un travail qui s'est fait effectivement sur le long terme, à savoir on a mis 3 à 4 ans pour arriver à trouver le juste équilibre. Et aujourd'hui, on n'utilise plus de glyphosate.
Et vous n'utilisez plus non plus de pesticides ou bien vous avez remplacé par d'autres pesticides ?
Partie bio, forcément, il n'y a pas de glyphosate, il n'y a pas de pesticides, il n'y a rien. Non. Mais je vais parler parce que tout le monde n'a pas forcément envie de passer en bio et il faut regarder ce qui se passe dans l'intermédiaire. Et ceux qui ont fait, il y a des agriculteurs qui ont fait le choix de bannir certains produits qui leur semblaient trop dangereux. Et comme le glyphosate, de toute façon, a été classé perturbateur endocrinien, et donc c'est plus la dose qui fait le poison. Donc qu'on en mette 1 litre ou qu'on en mette 10 litres, il y a des conséquences. Donc, il y a des agriculteurs qui ont dit, je m'en passe. Et pour s'en passer, ils ont repensé leur modèle, ils ont repensé leur rotation. Ça ne va pas forcément toujours vers du labour, ça c'est pas vrai. On laboure de temps en temps, mais c'est pas toujours du labour. Et puis, avec d'autres systèmes et d'autres rotations avec des plantes, on piège aussi du carbone. Donc, il faut pas opposer les systèmes, il faut simplement y penser et donner les moyens aux agriculteurs de se sortir du système basé sur le glyphosate.
Lauriane Moisset ?
Oui, donc pour rebondir à propos de l'utilisation des pesticides, en fait, à propos par exemple de l'INRA, ils ont quand même publié des études donc à partir de à peu près 1000 fermes qui montrent que 1000 fermes de grandes cultures conventionnelles qui montrent qu'en fait on peut réduire de 37% les herbicides sans qu'il y ait d'impact sur la productivité. Alors réduire de 37%, c'est pas complètement ça passé, mais c'est déjà ça. Donc en fait, on peut garder finalement, enfin il y a une surconsommation de pesticides qui n'a pas l'air d'être pertinente. Faut garder cette pour garder un certain niveau de productivité. Par ailleurs, il existe d'autres, et l'INRA travaille beaucoup, il me semble, sur les questions depuis une dizaine d'années, il existe d'autres systèmes de production, donc de manière globale, sous l'appellation l'agroécologie. Donc l'idée de l'agroécologie, c'est en gros de revaloriser les écosystèmes, les fonctionnalités écologiques et de l'écosystème au sein de la production agricole.
Cette question de la productivité, c'est une question qui est importante pour vous, Christiane Lambert, pour penser la place des pesticides aujourd'hui dans l'agriculture française et peut-être la réduction de leur place.
La productivité, elle est importante pour tous les agriculteurs, qu'ils soient en agriculture classique ou en agriculture biologique. La productivité, c'est ce qui fait aussi qu'on raisonne un optimum, qu'on raisonne aussi un objectif de rendement, des charges et des techniques qui vont avec, dans l'objectif d'avoir un revenu. La productivité, quand on veut l'améliorer, c'est essentiellement pour améliorer son revenu. Il y a différentes façons d'y arriver. Il y a aujourd'hui des nouvelles connaissances qui permettent de mieux connaître les impacts de l'usage des produits phytosanitaires ou des engrais, c'est-à-dire des intrants que nous utilisons, des connaissances qui n'existaient pas auparavant, des techniques qui n'existaient pas auparavant. Dans notre exploitation, nous avons 8 cultures. Il y a 20 ans, nous en avions 3. Donc ça veut dire qu'on a aussi évolué pour allonger les rotations et diversifier. Malgré tout, c'est comme si on disait...
Dans votre exploitation,
nous avons 106 hectares de culture, ouais. 100% destinés à notre élevage de porc. Et nous avons 8 cultures. Mais malgré ça...
8 cultures de quoi ?
Blé, ouais. De l'orge, du seigle, des pois, du colza, du maïs, du triticale. Et nous avons fait un mélange triticale-pois.
Et ça, ça permet d'avoir moins recours aux pesticides ?
Ça permet une moindre pression sanitaire lorsqu'on optimise les rotations. Mais malgré tout, nous avons un recours aux pesticides. Je crois qu'il faut dire les choses. C'est comme si on disait, est-ce qu'on peut avoir la France sans médicaments ? Il y a un slogan qui dit, les antibiotiques, c'est pas automatique. C'est pas automatique, mais de temps en temps, il faut s'en servir quand même. Sur les herbicides, il y a aujourd'hui des solutions qui émergent, qui arrivent. Nous avons des collègues qui sont en agriculture biologique. Nous utilisons de temps en temps leur herse et trille, notamment pour... Herse et trille, c'est des griffes.
D'accord.
Griffe le sol pour enlever les mauvaises herbes.
Je connais pas bien les outils de l'agriculture.
Entre les rangs de blé. Mais malgré tout, pour certains usages, nous avons besoin de ces produits. Lorsqu'une plante est malade, c'est comme quand on est malade nous-mêmes, on soigne cette plante. Et comme nous sommes producteurs de porc et nous utilisons tous les grains, si un blé est malade et contracte par exemple une fusariose, qui est une maladie du blé, il y a ensuite des mycotoxines qui restent dans les grains. Et ces mycotoxines sont très nocives pour l'alimentation des porcs. Lorsqu'une truie qui attend des petits, une truie gestante, mange du blé mycotoxiné, c'est-à-dire malade, elle avorte. Et il nous est arrivé d'avoir 15 avortements un matin du fait des céréales que nous avions jetées et qui n'étaient pas saines. Donc nous sommes aujourd'hui hyper regardants pour avoir des céréales zéro défaut, c'est-à-dire sans résidus de pesticides, mais aussi sans résidus de mycotoxines. Donc c'est pas si simple. Et il y a toujours un bénéfice-risque à appréhender. Mais moi j'apprécie assez l'analyse qui est faite ici, qui est de dire, c'est pas le zéro phyto demain, il faut réduire, parce qu'il y a une nécessité de réduire, économique d'abord, mais impact environnemental aussi. Mais il faut travailler sur les semences, il faut travailler sur les produits phyto, il faut travailler sur le machinisme, qu'est-ce qu'on peut utiliser et qu'est-ce que nos fournisseurs peuvent nous aider à trouver aussi.
Puisqu'on vous évoquait les bénéfices-risques, je voudrais peut-être qu'on s'arrête justement un instant sur les bénéfices qui sont apportés par les pesticides avant de revenir sur la question des risques. Est-ce qu'on peut dire qu'en tout cas, les pesticides ont permis justement, Lauriane Mouisset, à l'agriculture française de se développer et peut-être aussi de lutter contre certaines maladies ? Puisque si ça n'avait aucune efficacité de manière les pesticides, on imagine que les agriculteurs n'y auraient pas eu recours de manière aussi massive.
Oui, en fait, je parle sous le contrôle des deux agriculteurs qui sont ici, mais il me semble que le rôle principal là du Roundup, c'était en fait de tuer les adventices dans les champs sans que ça ait d'impact sur la semence future, et ce à un coût assez bas. Donc clairement, l'intérêt, c'est en fait de pouvoir être assuré d'avoir un certain rendement sans perturber la semence suivante et tout en ayant un coût qui reste suffisamment bas. Donc d'un point de vue profitabilité, c'est assez intéressant en fait.
De ce point de vue, Paul-François, on peut parler d'une vraie efficacité
Bien sûr, bien sûr que dans le système que j'ai pratiqué pendant des années, le Roundup, je suis content que vous le mettiez en avant, c'était surtout une facilité de travail et de travailler à bas coût. Je suis pas persuadé que tous les agriculteurs qui sont passés au non-labour l'aient raisonné par piège à carbone. Ça, on l'a bien vendu après en disant c'est l'agriculture conservatoire. Non, ça a été fait au départ, et je l'ai pratiqué, pour simplifier le travail et pour pouvoir, une personne seule, pouvoir travailler un maximum de surface. C'est comme ça que ça a été réfléchi, parce qu'il faut bien regarder pourquoi on a utilisé du Roundup. Et ça permettait de cultiver des grandes surfaces sans labourer, avec un travail simplifié, à bas coût, comme l'a dit madame, parce que aussi, et ça ne dépend pas de l'agriculture, on avait une demande de produire une alimentation bon marché, volumineuse. Parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas la conscience du danger des pesticides dans l'assiette des consommateurs.
Donc ça a permis d'accompagner un modèle qui avait été choisi pour le développement de l'agriculture.
Complètement. C'était Edgar Pisani et la révolution verte.
Vous parlez d'Edgar Pisani, juste laissez-moi 40 secondes.
Oui, bien sûr.
Ministre de l'Agriculture en 1961, enfin il va le rester quelques années. Écoutez juste un extrait de ce qu'il disait, comment il voyait l'avenir de l'agriculture française.
Notre France a été, est et doit demeurer un pays agricole. Mais ces mots n'ont plus aujourd'hui et n'auront plus demain le même sens qu'hier. Désormais, l'agriculture doit rapporter. Et pour rapporter, viennent brusquement devant nous des problèmes qui étaient largement inconnus aux générations antérieures, les problèmes de prix de revient, les problèmes de vente et aussi le problème des relations étroites avec l'industrie.
Voilà, je ne pouvais pas laisser passer l'occasion de ne pas laisser entendre Edgar Pisani, c'est un best-of, nous dit Christiane Lambert. Je vous laisse poursuivre, Paul-François.
Oui, mais ça a été une référence. En aucun cas, moi, je suis là. Mon père était admiratif, et même moi, de ce qu'il a pu faire. Et je pense qu'il en était convaincu. Mais je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, s'il était ici, il défendrait ce système qui est devenu pervers pour nous, agriculteurs.
Bah, on a le droit de changer d'avis.
Et on a le droit de se tromper, et on a le droit de changer d'avis. Je voudrais juste quand même revenir sur quelque chose que vous avez dit, Mme Lambert, qui me choque un tout petit peu quand vous parlez des chercheurs. Excusez-moi, je suis obligé de revenir en arrière, mais je l'avais noté et je suis passé à côté. Je n'arrive pas à comprendre que le milieu agricole aujourd'hui puisse dire, on va se réjouir que les scientifiques du cirque pourraient être remis en question parce que leur étude, alors qu'aujourd'hui, vous parliez de l'ANSES tout à l'heure, l'ANSES ne prend comme référence, comme la Commission de Bruxelles, ne prend comme référence uniquement les études proposées par les industriels. Et permettez-moi, c'est pas parce que j'ai attaqué Monsanto, que agriculteurs, nous souhaitons aujourd'hui que ces études ne soient faites par des agences, mais qu'elles aient les éléments. Parce qu'aujourd'hui, c'est uniquement les études présentées par les industriels. Et on ne peut pas leur faire confiance. Donc ça, c'est clair. Et de dire aujourd'hui que ceux du cirque, peut-être qu'il y a eu des petites interférences, je ne sais pas. Mais je préfère encore l'étude du cirque que quand ce sont les industriels qui nous fournissent les éléments. Je reviens sur le fait que, oui, on a le droit de se tromper. Oui, Edgar Pisani, il était très sincère quand il a dit qu'il faut moderniser notre agriculture et on peut être fier de cette réussite. Simplement, à travers la chimie, on est rentré dans un modèle, c'est pour ça que je disais souvent, cette révolution verte, maintenant on peut dire que c'était un verre artificiel. Et aujourd'hui, il faut au contraire regarder nos erreurs du passé pour changer notre modèle agricole, pour aller vers une agriculture qui permette à ces paysans de vivre, respectueuse de l'environnement et qui permette aux consommateurs d'avoir une alimentation saine.
Une agriculture très dépendante aujourd'hui des pesticides. Si j'en crois un dossier de l'INRA, alors qui date de 2014, c'est pas quand même très vieux. La France, troisième consommateur mondial de pesticides, premier en Europe. De 1945 à 1985, la consommation de pesticides a doublé tous les 10 ans. Voilà, c'était pour donner quelques chiffres.
Moi, j'ai d'autres chiffres, si vous permettez.
Alors allez-y, Christiane Lambert.
La France utilise 1% du glyphosate utilisé dans le monde, 1%.
Ouais.
La France est la troisième puissance agricole. Et la France, si on
ramène... troisième consommateur de pesticides.
Mais lorsque vous dites
donc,
la France est le premier consommateur, ramené à l'hectare...
En Europe.
Ramené à l'hectare, savez-vous quel est notre rang? La France est le 9e pays utilisateur de pesticides à l'hectare. Malte en utilise en moyenne 10 litres et nous 1,5 litre. Donc il faut faire très attention aux chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut. En France, nous avons la particularité d'avoir des vignes, de l'arboriculture, des productions maraîchères, qui sont des productions qui sont plus fragiles et qui ont plus besoin de produits phytosanitaires.
Donc ça veut dire est-ce que ça veut dire, Christiane Lambert, que l'agriculture française n'est pas si dépendante que cela des pesticides?
Sa dépendance a beaucoup réduit. Parce que moi j'ai milité pendant 5 ans dans le forum de l'agriculture raisonnée respectueuse de l'environnement. Oui, le constat a été fait que la chimie a permis de progresser, mais à l'époque où il n'y avait pas d'études sur les impacts. Aujourd'hui, on sait analyser les impacts sur les sols, sur les produits, sur l'eau, sur la biodiversité. Et donc, l'agriculture a changé. Elle fait sa mue qualitative. Et quand Monsieur Pisani, qui a parlé tout à l'heure, parle de pas le même sens, avec les connaissances d'aujourd'hui, on n'aurait pas travaillé pareil, c'est évident. Mais il faut raisonner à connaissance d'aujourd'hui. Et avec les connaissances d'aujourd'hui, oui, nous engageons un grand plan de mutation. Nous, on veut une trajectoire de solution. C'est-à-dire que les trajectoires d'interdiction, ça ne satisfait personne. Vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le droit. Moi, je préfère qu'on dise qu'est-ce qu'il faut chercher pour trouver d'autres solutions alternatives à la chimie.
Alors, on va justement aller très vite sur cette trajectoire de solution, voir comment on peut accompagner, comment il faut accompagner les agriculteurs français vers une réduction de la part des pesticides. Mais Lauriane Mouisset, vous vouliez réagir, je ne sais plus à qui ou à quoi.
Oui, bon, je vais reprendre un petit peu, mais oui, alors pour rebondir sur ce que vous veniez de dire sur les trajectoires, en fait, pour pouvoir aider à une trajectoire, il faut d'abord réfléchir de manière un peu plus fondamentale qu'est-ce que l'on veut atteindre, en fait. Donc, par rapport à ce que vous disiez précédemment, donc le développement de la chimie avait peut-être permis un développement, une modernisation qui était peut-être artificielle. Moi, je serais plus tempérée, en fait, dans mon analyse. Je dirais de manière un peu plus formelle qu'en fait, c'était un choix qu'on a,
politique.
Un choix politique, oui, et un choix économique. On a choisi pour la production de tout mettre sur le capital plutôt que sur le travail, c'est-à-dire de moderniser, d'utiliser des machines, etc. Et effectivement, assez peu d'hommes par hectare. Donc, on privilégie plutôt le capital que le travail. Et en fait, l'idée, il me semble aujourd'hui des réflexions, c'est est-ce qu'on veut rester sur ce schéma ? Et sinon, quel est le nouvel arbitrage que l'on souhaite mettre en place entre le capital et le travail ?
Alors, restons justement sur cette logique. Alors, il y a un choix politique qui a été fait. J'évoquais ce plan Ecophyto, alors qui a été lancé en 2008, qui était assez ambitieux, hein, divisé par deux le recours aux pesticides en 2018. En 2015, nouvelle version de ce plan, avec cette fois un objectif de baisse de 50% à l'horizon 2025, avec un objectif intermédiaire de moins 25% à l'horizon 2020. Est-ce que faire ce choix politique, Lauriane Mouisset, ça veut dire que c'est aussi faire le choix d'une agriculture qui serait davantage demandeuse de main-d'œuvre, parce que s'il y a moins de pesticides, par exemple, pour désherber, enfin je ne sais pas, ça suppose qu'il y ait davantage d'agriculteurs aussi qui travaillent.
Oui, voilà, il me semble, des témoignages en tout cas que j'ai vus, hein, que la mise en place de ce type de méthode et de globalement l'agroécologie demande en fait plus de main-d'œuvre. Donc ça, c'est pas forcément négatif, hein, dans un cadre où il y a du chômage, etc. C'est juste que c'est un autre business plan, une autre manière de penser, également une autre identité, peut-être pour l'agriculteur. Donc le rôle de l'agriculteur vis-à-vis de l'agriculture, quelle est la raison d'être de l'agriculture ? Est-ce que c'est vraiment de produire de manière hyper intensive, produire le plus possible ? Ou est-ce que c'est au contraire une approche plus en symbiose, pour dire ça de manière un petit peu poétique, avec la nature, peut-être coproducteur à la fois de biens alimentaires, mais également de biens environnementaux, voilà, ce genre de choses. Donc, effectivement, c'est en fait re-questionner de manière globale la main-d'œuvre et le rôle et le rôle de cette main-d'œuvre dans l'agriculture.
Pour réduire la part des pesticides dans l'agriculture française, puisque c'est celle qui nous intéresse ce soir, et il faut penser une agriculture qui emploie davantage de personnes. Paul-François et Christiane Lambert. Paul-François d'abord.
Oui, complètement. Moi, je vais faire part de mon expérience. On m'a souvent reproché, j'ai été intoxiqué par un produit. J'ai mené le combat pour la reconnaissance maladie professionnelle et le combat contre Monsanto. Des fois, on me disait, mais vous êtes atteint sur votre santé et vous continuez à utiliser des produits. Et je l'ai jamais caché dans un premier temps. Parce que j'ai dit, cette agriculture biologique, il faut que je réapprenne un métier. Quoi qu'il en soit, moi, j'ai été formaté sur l'utilisation de cette chimie. Donc, il faut du temps. Et donc, effectivement, donc je l'ai fait sur plusieurs années. J'espère que les 240 hectares seront en bio très rapidement maintenant. C'est mon objectif. Et ça m'a permis quoi ? Ça m'a permis de maintenir mes deux salariés sur la ferme. Parce que je peux vous dire qu'aujourd'hui, si j'étais resté en conventionnel, au prix des céréales tels qu'ils sont, il faut que j'en licencie au moins un. Donc l'agriculture biologique me permet aujourd'hui de maintenir mes deux salariés. Ils ne travaillent pas à la main. C'est que les passages d'hercétrie, comme expliquait Mme Lambert à l'instant, c'est un travail autre. Donc il a fallu que je réorganise le travail sur l'exploitation. Ça a maintenu un emploi. Et en plus, non seulement ça a maintenu l'emploi, et ça me dégage des bénéfices. Donc je m'y retrouve.
Comment vous réussissez à maintenir l'emploi et dégager des bénéfices ? Parce qu'a priori, ça vous coûte plus cher justement à produire.
Non, j'ai fait un transfert de charge. Parce qu'une exploitation comme la mienne, même en étant en agriculture raisonnée, j'ai acheté pour 70 000 euros de pesticides. Donc,
parce que vous ne dépensez plus en pesticides, vous le dépensez en salaire.
70 000 euros de pesticides ?
J'ai acheté pour 70 000 avec...
Pour une surface pareille, c'est insensé. Oui, vous en utilisiez beaucoup alors.
Mais j'ai jamais caché mon parcours, Mme Lambert.
70 000 ?
On a acheté pour 70 000 euros à la fois d'engrais chimiques et
Mais vous avez dit de pesticides, soyons précis. Alors,
J'estime, Mme Lambert, que si vous voulez jouer sur les mots. Engrais est un pesticide pour moi, d'accord ? L'azote est un pesticide. Et l'azote.
C'est un fertilisant.
C'est un fertilisant
de la famille des pesticides.
Qui pollue. Alors vous jouez sur les mots.
Non,
alors, on va être plus clair.
On appelle un chat un chat.
Oui, on va appeler un chat un chat. D'accord, ok. On va appeler un chat un chat. Entre les fertilisants.
Voilà.
La fertilisation de synthèse qui pollue les sols et qui pollue les rivières et qui donne des algues vertes. Et on en a acheté pour 70 000 euros. Donc on a fait un choix de transfert de charges. Et donc effectivement, ce que je ne mets plus dans les pesticides et les engrais, je le mets dans de la main-d'œuvre et dans d'autres techniques. Voilà le choix. L'agriculture biologique a un coût, hein, faut pas oublier, faut pas imaginer. Il y a des gens qui pensent que hop, on fait de l'agriculture biologique, ça coûte pas cher, donc on va en vivre. Non, c'est un coût. Il faut le raisonner là aussi, il faut faire très attention et on le valorise avec une valeur ajoutée sur les prix de vente de nos produits.
Christiane Lambert, qu'est-ce que la FNSEA que vous présidez pense de cet objectif de la dernière version du plan Ecophyto? Donc je rappelle, hein, une baisse du recours aux pesticides de 50% à l'horizon 2025. Est-ce que c'est un objectif auquel vous adhérez et quels sont les accompagnements qui vous semblent nécessaires pour l'atteindre ?
Nous avons acté cette décision de Stéphane Foll l'année dernière, donc c'est un objectif qui est récent, qui est très ambitieux, parce que moins 50% en 7 ans, c'est énorme. Et donc, il faut faire plusieurs choses à la fois. D'abord, il faut accepter qu'il y ait plusieurs modèles. François valorise en bio, et heureusement, il vend bio et il vend plus cher. Donc, il faut que le bio reste plus cher pour payer la main-d'œuvre en plus, parce que, madame, vous n'avez pas parlé quand même du coût de la main-d'œuvre, ça coûte. On peut aussi envisager d'autres modèles où nous axons plusieurs solutions. Un, il faut plus de formation des agriculteurs pour préparer à travailler autrement et faire ces mutations. Parce que ça ne s'improvise pas. Il y a quand même des risques financiers qu'il faut assumer. Donc la formation scolaire et ensuite, il y a eu des formations au certiphyto, du bon usage des produits phytosanitaires. Tous les agriculteurs ont suivi cette formation. Nous prônons aussi une recherche plus sophistiquée. On a aujourd'hui recours à des semences pour toutes les cultures qui sont plus résistantes à certaines maladies notamment. Quand on a aujourd'hui des semences qui sont plus résistantes aux maladies, on a moins besoin de fongicides qui soignent les maladies. On a aussi des variétés qui ont été sélectionnées qui font des meilleurs rendements avec moins d'engrais. On a recours à moins d'engrais, on a eu une optimisation des semences plus efficientes.
Il y a aussi d'autres techniques. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un effort qui est fait dans la recherche. Alors.
Bien sûr, il faut poursuivre cet effort dans le privé et public d'ailleurs. Et moi, je souhaiterais que l'INRA puisse travailler avec les marques de produits phytosanitaires et que tout ceci soit transparent. Tout le monde y gagnerait. Il faut aussi regarder que du côté de la robotique, il y a des choses qui avancent. Aujourd'hui, il y a des robots qui sont vendus pour supprimer les phytos en maraîchage. C'est un petit robot qui se promène au milieu des salades et qui, avec des petits bras comme des fourchettes, désherbe mécaniquement parce que c'est un travail pénible malgré tout. Voilà, donc la pénibilité, vous n'en avez pas parlé, mais désherber, c'est compliqué, la terre est basse. Donc des robots aujourd'hui qui existent, y compris pour le maïs, pour la vigne, des faucheuses aujourd'hui robotisées qui viennent couper l'herbe au milieu des vergers. Il y a des très belles vidéos sur Twitter en ce moment qui sont réalisées en Australie, dans l'université de Sydney, et qui montrent que la robotique permet d'apporter un soutien mécanique pour aussi remplacer.
Donc, ça suppose quand même d'avoir une taille d'exploitation suffisante pour se doter de ce genre de...
Aujourd'hui, dans le sud de la France, en maraîchage, Naïo, le petit robot, il est plutôt sur des exploitations de moyenne taille et surtout, il est partagé à plusieurs. On l'achète en groupe, on ne l'achète pas tout seul. Et la mécanisation et ces outils-là ne sont pas forcément liés à des très grandes tailles. Au contraire, c'est des exploitations qui optimisent tout, qui résonnent énormément. Donc moi, je crois à un bouquet de solutions. Mais la clé, c'est quand même la connaissance, la compétence de l'agriculteur et le fait de se dire, les solutions de demain ne seront pas celles de Pisani. Ce que disait très intéressant Pisani, c'est quand un modèle a réussi, il faut le changer. Le modèle, il a réussi, il a permis de produire beaucoup. On n'avait pas envisagé tous ces impacts. Aujourd'hui, on sait qu'il y a ces impacts, mais on les connaît. On a le bouquet de solutions possibles.
Donc vous dites quand même que le modèle, il faut le changer.
Il faut le changer, mais il faut le changer en transition. Il ne faut pas jeter la pierre à ceux qui ont travaillé comme ça. Nos parents ont travaillé comme ça parce que c'était la politique qui avait demandé, produisez beaucoup et pas cher, pour que le pouvoir d'achat des ménages soit préservé. Le pouvoir d'achat des consommateurs a été privilégié au détriment du pouvoir d'achat des agriculteurs. Et en France, en plus, avec un système de distribution à la française où 92% de l'alimentation est achetée en grande surface, pardonnez-moi, c'est quand même une pression très forte sur les prix des producteurs. Et quand les prix sont contraints, il faut réduire les charges.
Raison pour laquelle je disais au début que s'il y avait un changement de mentalité à opérer, c'est pas seulement du côté des agriculteurs, mais c'est aussi du côté des consommateurs qui doivent peut-être accepter d'accorder davantage de leur budget à leur alimentation. Une alimentation
c'est
peut-être un petit peu
différente. 2 centimes de plus sur 1 kilo de cerise pour traiter différemment. 2 centimes.
Lauriane Mousset,
Oui, oui, c'était exactement ce sur quoi je voulais rebondir. En fait, le fait qu'il y a effectivement des recherches qui, en faveur de l'agroécologie, donc qui montrent de plus en plus que on pourra avoir des rendements un peu équivalents à l'agriculture conventionnelle. Mais moi, je pense que la clé le verrou actuel de tout ce débat, c'est qu'en fait, on ne réfléchit pas à ce que l'on veut vraiment pour la société. C'est pas seulement les agriculteurs d'un côté. Il faut vraiment réfléchir à ce que veut la société. Donc, la société, ça inclut les agriculteurs. Ça inclut l'éducation et ça inclut effectivement les consommateurs. En fait, on peut pas stigmatiser les agriculteurs essayer de leur donner plein de subventions, enfin leur donner des solutions sans penser plus globalement un changement au niveau de la société, au niveau du consommateur. Donc ça a un prix. Voilà, ça a un prix en fait avoir des aliments de bonne qualité. Il faut effectivement payer le travail.
Vous avez l'impression qu'on fait peser sur les seuls agriculteurs justement la responsabilité de cette dépendance aux pesticides et des effets nocifs, parce qu'il y a quand même des effets nocifs qu'ils ont aujourd'hui.
Alors moi je trouve que c'est un peu schizophrénique là aussi, c'est-à-dire qu'il y a effectivement cette pression sur les agriculteurs et puis aussi cette culpabilisation auprès des consommateurs parce qu'on ne consomme pas bio, parce que voilà. Et en fait il manque quand même un acteur au milieu qui est les intermédiaires qui quand même sont assez connus pour se faire des marges assez importantes, et donc je trouve que là aussi ça vaudrait le coup de repenser l'ensemble de la filière, donc avec les trois types d'acteurs, pour effectivement peut-être rééquilibrer un petit peu le bénéfice. Alors il y a des intermédiaires, ils ont une plus-value, c'est normal de payer cette plus-value, mais voilà, peut-être rééquilibrer un petit peu sur la chaîne.
Je partage, et c'est tout l'objet des débats des États généraux de l'alimentation.
Alors j'allais y venir justement, vous y participez, j'imagine, Christiane Lambert, Paul François en fait partie. Est-ce que justement cette question beaucoup plus large, c'est-à-dire au-delà de la question du glyphosate, on voit bien qu'on va vers les pesticides, et une fois qu'on parle des pesticides, on réfléchit au modèle agricole, et quand on réfléchit au modèle agricole, on réfléchit à un modèle de société. Est-ce que c'est comme ça que les choses sont abordées aujourd'hui dans le cadre des États généraux de l'alimentation?
Il y a 900 personnes autour de la table. C'est un grand lieu de discussion, 14 ateliers, 900 personnes, ça discute beaucoup. Il y a eu un volet qui était consacré à ce qu'évoquait madame à l'instant, c'est-à-dire le prix payé par les consommateurs et la répartition de la marge. Le fait qu'aujourd'hui les agriculteurs gagnent de moins en moins leur vie, la majorité d'entre eux, une très grande majorité ne gagne pas leur vie. Il y a même une pression aujourd'hui sur les prix de l'agriculture biologique, peut-être moins pour les céréales de Paul François que pour les œufs, le lait, la viande, où aujourd'hui les distributeurs font même des promotions sur les produits bio, ce qui est proprement scandaleux, alors qu'ils doivent être tirés vers le haut. Et la question de la répartition de la valeur, elle permet aussi, si c'est rentable dans nos exploitations, d'envisager plus facilement d'améliorer nos modes de production. Et la deuxième partie, c'est une alimentation saine, durable et accessible, justement pour dire aussi, aujourd'hui, il y a quand même des gens qui n'arrivent pas à manger. Aujourd'hui, le prix est le critère d'achat le plus souvent cité par les consommateurs, même si l'origine, la proximité monte en puissance en termes de demande. Mais on voit bien quand même que 92% de la vente alimentaire est consacrée par 4 distributeurs. Et les Français font en majorité leurs courses en grande surface. Donc on a une habitude alimentaire à la française. En Italie, c'est complètement différent. C'est seulement 50% dans les grandes surfaces. Donc chez nous, en France, il faut aussi que les consommateurs signent ce pacte avec nous. Consommer plutôt des produits français, plutôt des produits haut de gamme, monter en gamme, et c'est faire. Et il faut qu'on gagne notre vie aussi. Et on évoluera plus facilement.
Ces états généraux de l'alimentation, comment vous les voyez, vous, Paul François?
Alors, là, je rejoins complètement Christiane Lambert, à savoir qu'effectivement, on ne va pas revenir sur notre historique. C'est une décision qui a été prise collectivement d'en arriver là, aux pesticides, et elle nous appartient pour en sortir collectivement. Où je suis un peu surpris, c'est que ce matin, nous, on est dans le groupe 11. C'est nous qui devons, ce groupe, proposer un modèle agricole pour les générations futures. Et quand je vois certaines réticences, et ils ne viennent pas forcément que de la FNSEA, d'ailleurs, c'est des agriculteurs qui sont arc-boutés pour dire: on ne sait pas faire autrement. Non, ça c'est faux. Ce matin, on s'est dit que faire un programme sur 15 ans qui nous permettrait de sortir des pesticides les plus dangereux, à savoir les cancers, les CMR1 et les CMR en règle générale et les perturbateurs endocriniens, c'est possible. Et où je rejoins aussi complètement, mais je crois qu'on est tous les trois d'accord, c'est qu'il va falloir qu'il y ait une prise de conscience des consommateurs. On parle d'agriculture durable, je dis souvent, il va falloir aussi des consommateurs durables qui nous accompagnent, parce que nous stigmatiser, et on n'a pas à stigmatiser les consommateurs, on doit regarder ce que l'on achète, d'où ça vient, d'où ça provient, Madame Lambert a complètement raison en disant 90% c'est la grande distribution. Il y a un manque de transparence. Mais on a bien vu encore ce matin, quand on a parlé justement comment donner cette transparence, on a l'impression que nous, les agriculteurs, on a envie de tout cacher aussi. Hein. Et c'est, là, je regarde Christiane Lambert, c'est pas la FNSEA qui était là-dessus. Votre représentant était très très clair. Il était justement, mais par contre très ouvert et pour dire oui, mais qu'on ait un programme pour qu'on s'y tienne. Et donc ça veut dire
surtout qu'on ne signe pas le CETA qui laisse rentrer n'importe quoi et des produits avec 43 substances interdites chez nous.
Alors là, vous nous renvoyez.
En France, soyez beau et soyez sain et produisez bien, mais on va rentrer des produits qui ont 43 substances interdite.
Vous nous renvoyez vers un autre sujet, le CETA. Ce sera d'ailleurs un prochain sujet, sans doute, du grain à moudre, puisque le Parlement français doit encore se prononcer sur cette question. En tout cas, merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Christiane Lambert, donc, présidente de la FNSEA. Lauriane Mousset, vous êtes chercheuse au CNRS. Je renvoie à votre livre « Repenser le défi de la biodiversité » aux éditions de la Rue d'Ulm. C'était en 2015. Et Paul-François, vous venez de publier « Un paysan contre Monsanto ». C'est aux éditions Fayard. Voilà, merci à toute l'équipe du Grain, Virginie Leduour, Antoine Tricot, Fanny Richet, Antoine Dulster et Eva Pellerin. Émission réalisée par Véronique Villa avec à la prise de son Yanis Djoudad.